Cacao Cast, épisode 276. Nous sommes le mardi 19 mars 2024. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe?
Ah, ça va, le printemps, Philippe, c'est vraiment le printemps. Tout est d'avance et puis ça va quand même assez bien. Là, j'ai résolu un problème que je pensais que ça prendrait un mois. Ça m'a pris 2 semaines, alors je suis content.
OK, un problème qui a un rapport avec quoi? La température?
Non, pour le travail.
Ah, pour le travail.
J'ai fait un projet qui était budgété à un mois, puis je l'ai fait en 2 semaines, alors j'étais bien content.
Ah bah bravo. Ouais. Tu vas peut-être avoir une petite récompense, un bonus.
Non, je vais me rattraper pour mes erreurs passées.
Oh boy. Oui, bah c'est le printemps, mais ça se voit moins, là. Il faisait doux dernièrement, puis là, on a un petit peu de la neigeotte, là. Ça neige un peu, il fait un petit peu plus frais, mais bon, c'est sûr que ça arrive. Il faut bien.
C'est le temps des sucres, alors c'est le temps de la cabane à sucre, c'est le temps de faire de la tire sur neige, qu'il n'y a plus de neige, des choses comme ça.
Voilà, bon, là, on va prendre de la neige artificielle, on va trouver quelque chose.
Ouais.
Ok, super. Ben, on se retrouve. Une petite interruption de 3 semaines. Là. J'ai pris des petites vacances la semaine dernière. C'est pour ça qu'on n'a pas enregistré. Et on enregistre cette semaine. Donc, on se rattrape. On a plein de sujets à partager. On va commencer tout de suite. Sinon, on n'arrivera pas jusqu'au bout. On voulait juste faire une petite revue un peu des news. Il y a pas énormément de choses. Il se passe des trucs en Europe avec Apple et la Commission européenne et Spotify qui se bagarrent là.
Et Epic, l'autre compagnie aussi. Là.
Et Epic. Donc, ouais. Moi, j'avoue, et Philippe, tu es d'accord avec moi, que ça nous passionne pas trop. Ça, c'est un peu de la procédure. Ça, c'est peut-être très important pour beaucoup de gens, malheureusement, en Europe, mais vu de loin, là, on n'a pas trop l'information, on n'est pas assez impliqué dedans pour vraiment donner des opinions qui soient intéressantes pour vous, nos auditeurs. Donc, on va un petit peu laisser faire les spécialistes, puis on verra ce que ça donnera au résultat. Possible que c'est des conséquences au niveau mondial. Ce qui se passe en Europe, peut-être qu'à terme, ça ira dans le reste du monde. On garde un œil là-dessus.
Oui, ça évolue tellement rapidement parce qu'au début, les trucs d'Apple étaient super restrictifs avec des... si vous voulez faire votre propre App Store, bien, vous pouvez, mais vous devez permettre à d'autres personnes de mettre des applications dans votre App Store. Vous devez avoir une lettre de crédit d'1 million d'euros. Vous devez... Et puis là, tout ça, ça change de semaine en semaine. Maintenant, c'est ridicule. Apple est quand même en train d'annoncer que peut-être qu'on pourra même télécharger des applications directement depuis un site web plutôt que de passer par un App Store. Ça va trop vite. Là. Ça sert à rien d'en parler. C'est en train de fluctuer. Et puis, disons que de mon côté, moi, je préfère juste fermer un peu les volets, attendre que ça passe et puis voir qu'est-ce qui va vraiment rester. C'est un peu comme si on lance des choses sur le mur puis on voit qu'est-ce qui colle, là, pour reprendre un aphorisme anglophone.
C'est un peu ça. On s'en doutait un petit peu. On savait que la réponse d'Apple était très restrictive, très, très, très contraignante et que ça allait pas plaire. Donc, il y a des compagnies en Europe, on l'a déjà dit, Spotify a l'air d'avoir des bons appuis au niveau de la Commission européenne. C'est une compagnie européenne qui se défend contre un conglomérat, une grosse compagnie américaine. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu de politique en plus qui se mélange là-dedans. Et c'était certain que ce que Apple proposait n'allait pas satisfaire la Commission européenne. Donc,
personnellement, je suis pas un fan de Spotify non plus. Là, je trouve que leur modèle d'affaires est de ne pas payer les artistes qu'ils utilisent et pas parce qu'ils les payent. On entend toujours là, c'est des trucs ridicules. Là, des personnes qui ont 1 milliard d'écoutes qui reçoivent un chèque de 50 $, là, ça n'a pas de bon sens. Là,
Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas le bon rôle non plus. Je les aime pas trop non plus. Je suis client malheureusement. Mais... c'est un peu parce que mes enfants me forcent à utiliser, mais bon, c'est une autre affaire. Alors donc, on suivra ça si il y a des gros développements, des choses qui se font. Ça sera peut-être que pour l'Europe, ça se fera jamais ailleurs, on verra.
Donc, tu sais, qu'est-ce qu'Apple pourrait faire? Il pourrait sortir une voiture, mais seulement en Europe, ça serait drôle, ça.
Ouais, ça serait drôle aussi. Donc, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est peut-être des annonces ou des nouveaux iPads au mois d'avril, ou je sais pas, donc il y a un peu des rumeurs là qui parlent de matériel qui pourrait sortir.
Ouais, parlant de rumeurs aussi, c'est que la WWDC cette année, ça va être beaucoup, beaucoup sur l'intelligence artificielle.
C'est ça.
Les auditeurs de longue date savent que je suis pas un fan de l'intelligence artificielle, mais bon, c'est dans l'air du temps, là. J'ai juste hâte que ça disparaisse un peu parce que ça coûte un peu trop cher en énergie, je trouve. On fait des gros efforts pour économiser de l'énergie. Puis après ça, ça disparaît tout dans les bitcoins et dans l'intelligence artificielle. Ça me désole un peu.
Ouais, ouais.
Je pense que je vais devenir un ermite. Je vais laisser tomber tous les téléphones, tous ces trucs technologiques. Puis je vais aller mettre ça dans le bois. Là.
Faudrait peut-être, je sais pas. Mais c'est sûr que Nvidia a annoncé un nouveau GPU Blackwell hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, hier.
Ouais.
Qui utiliserait. 5 fois moins d'énergie. Bon, donc ils vont un peu dans la bonne direction, mais bon, c'est toujours énorme.
Ils vont dans la bonne direction, mais les besoins vont être multipliés par 5 dans le temps de le dire.
Ouais, c'est ça. Donc je pense que voilà, ils parlaient d'un data center là, qui consommait 25 mégawatts par, je sais pas quoi, par jour, par ouais, heure, on sait rien. Et là, ça descendrait à 4-5 mégawatts, mais c'est quand même énorme. Mais voilà, les data centers sont de plus en plus gros, de plus en plus nombreux. Donc, bon, je ne sais pas. C'est intéressant tout ça. Donc, on va le suivre. Ouais, c'est sûr qu'il y a des petites rumeurs d'Apple qui travailleraient avec Google et pour avoir leur modèle de langage large Gemini ou Gemini qui soit intégré avec Siri. Donc, Siri serait un petit peu plus intelligente. Ouais, ça fera peut-être pas de mal, je ne sais
mais
pas.
Mais aussi, on verra. Un petit peu plus dans le... Dans le nuage, et donc avec des temps de réponse qui ouais. sont à l'avenant, là, puis un peu de moins de vie privée aussi. Là.
Bah, c'est ça, il faut voir ce que ça donne. Ouais. Donc, Apple essaie de faire du traitement sur les appareils. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à avoir un modèle qui rentre dans un iPhone? Ça prend plusieurs gigaoctets de mémoire, un modèle en général de bonne qualité.
Votre iPhone va avoir la grosseur d'une voiture. Tu vois, on ramène toujours tout à la voiture. C'est pour ça qu'ils font une voiture.
Mais voilà, c'est sûr que t'aimes ou pas l'intelligence artificielle, là, c'est le raz-de-marée. Il y en a partout. Donc, il y a ça. Et puis, j'ai cru entendre que le Apple Vision Pro, dans le SDK, on commence à voir des pays supplémentaires qui apparaissent dans la liste. Et j'ai vu que le Canada en faisait partie. J'ai pas trop regardé les autres pays d'Europe ou la France ou des gens qui nous écoutent. Mais comme tu le disais, d'ici la WWDC ou à la WWDC, ça serait pas étonnant qu'ils commencent à annoncer l'Apple Vision Pro dans d'autres pays.
Ouais, parce que la façon dont ce produit-là va se vendre, c'est avec des applications tiers parties. Ça sera pas juste avec des applications d'Apple.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, il faut des développeurs à bord pour développer des bonnes applications qui donnent envie de payer ce prix exorbitant. En attendant, une version moins chère, bien sûr.
Une chance que tu portes un Apple Vision Pro quand c'est exorbitant. Au moins, tes yeux restent au bon endroit.
Ouais, c'est ça. Ils vont pas tomber par terre.
Ouais.
On va parler un petit peu de choses à prévoir, là, venant d'Apple aussi, pour vos applications. On va parler de manifeste dans les frameworks, c'est ça? Alors, oui. C'est... Et je pensais qu'on en avait parlé, mais c'est possible qu'on en ait pas encore parlé.
On en a parlé, là, c'est sorti à la WWDC et un peu à l'automne dernier, ouais. Ça s'est concrétisé un peu. Mais ce qui arrive, c'est que comme à chaque année, le printemps arrive et avec le printemps, il y a des nouvelles, comment je pourrais dire ça, mises à jour, restrictions, nouveaux trucs qu'il faut apprendre pour faire du développement iOS et macOS, etc. Alors, évidemment, d'ici la fin du mois d'avril, on va avoir l'obligation d'utiliser Xcode 15, donc SDK iOS 17 et macOS 14 pour pouvoir soumettre des applications à l'App Store. Si vous utilisez pas, si votre application n'est pas déjà construite avec Xcode 15, ben, à un moment donné, vous ne pourrez plus faire de mise à jour. Ça, c'est le classique de chaque année. Ce qui est nouveau cette année dans les restrictions, c'est qu'on s'attend toujours, il y a toujours des petites restrictions qui rajoutent de chaque année, là, comme par exemple, il faut que vous mettiez Si vous utilisez les systèmes de localisation dans votre application, il faut que vous mettiez dans le info playlist une chaîne de caractères qui explique pourquoi vous avez besoin de ça, puis c'est révisé, c'est vérifié par Apple, etc. Là, pour éviter que ce soit des applications qui utilisent des... Comment je pourrais dire ça? Qui utilisent des fonctionnalités dont ils n'ont pas besoin. Là, c'est un cas quand même assez courant. Mais là, cette année, c'est les manifestes, comme tu dis. C'est parce que Apple commence à mettre à serrer la vis à l'utilisation de certains API qui peuvent être utilisés pour vous identifier sans passer par les API classiques de localisation ou de numéro de série de votre iPhone ou de numéro de carte Ethernet ou des choses comme ça, comme dans votre iPhone, numéro d'identifiant IMSE, de votre téléphone. Ces choses-là ne sont plus accessibles, mais les gens qui font, par exemple, des publicités veulent avoir ce genre d'informations-là. On a déjà, dans les quand on soumet à l'App Store, on doit dire quel genre de données on ramasse sur l'utilisateur, puis ça apparaît dans un peu comme l'étiquette nutritive, là, hein, sur les dans l'App Store, elle apparaît pour ce genre de renseignements pour la vie privée. Mais maintenant, on codifie un peu tout ça, et même plus avec ces fameux manifestes qui disent que bon, ben, je veux avoir accès à certains API, il faut que j'explique pourquoi. Et le défaut de la nouvelle approche, c'est que c'est un petit peu plus complexe de faire ce genre de déclaration là. C'est pas juste une petite entrée dans un fichier info playlist ou une entrée textuelle dans un champ de App Store Connect. C'est vraiment un bundle avec un format particulier dans votre application, mais aussi dans chacun de vos frameworks aussi qui contiennent du code exécutable. Et puis, si vous utilisez des frameworks de tiers parties qui utilisent des fonctionnalités auxquelles vous ne connaissez pas, par exemple, vous utilisez les frameworks de Firebase ou de Google ou des choses comme ça, ou Alamo Fire ou différents React, différents frameworks comme ça, il est possible que... ces frameworks doivent avoir leur propre manifeste à l'interne qui sont rajoutés dans votre application. Donc, si vous avez à construire votre propre manifeste pour votre application ou pour un framework que vous-même vous créez ou pour un framework que vous utilisez, dont vous avez peut-être le code source, parce qu'il est en code source libre quand on parle de plusieurs frameworks ici, mais qui n'a pas lui-même de manifeste, il faut absolument créer un manifeste pour chacun de ces frameworks-là, qu'il soit de vous ou non. En ce moment, la demande d'Apple est une demande un peu soft, là, un peu douce, dans le sens qu'on vous dit gentiment hein, « il faudrait que vous pensiez à mettre des manifestes dans vos trucs comme ça », mais éventuellement, ça va devenir obligatoire et on va rejeter les applications qui sont soumises à l'App Store s'il n'y a pas ces trucs-là. Pourquoi je vous parle de tout ça maintenant? C'est parce que c'est assez complexe à faire et on a trouvé deux ressources qui vont être dans les notes de l'émission qui vous... indique la marche à suivre pour installer ces manifestes-là dans les différents XC frameworks ou applications que vous utilisez. C'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui parce que ça s'en vient. C'est vraiment un autre truc à apprendre pour faire du développement iOS et macOS.
Et ouais, et c'est pas complètement évident. Hein. Il faut lire les documentations et puis voilà, suivre les instructions avec soin, là, parce que c'est pas un truc, on rajoute une ligne dans vos préférences et c'est fait. Quoi.
C'est ça, exactement.
C'est plus compliqué que ça. Quoi.
Ouais.
Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez, je sais pas, vous êtes l'auteur d'un framework ou vous utilisez des frameworks dans vos applications qui sont sur l'App Store, jetez un coup d'œil là-dessus.
Et aussi pour votre propre application, même si vous n'utilisez aucun framework qui a besoin d'avoir un manifeste, vous avez probablement besoin d'en mettre un dans votre application aussi parce que les API de base qui sont couvertes par ces manifestes-là, exemple NS User Defaults, ou en Swift User Defaults est une de ces des API visées par les manifestes. Vous utilisez probablement User Defaults, vous devez probablement créer un manifeste à ce moment-là.
Ouais. Beaucoup d'applications l'utilisent sans trop le savoir, assez mécaniquement, et puis on ne fait pas attention. Oui. Mais tu as raison, voilà, Apple serre la vis, veut s'assurer qu'on ne puisse pas tracer les utilisateurs avec des frameworks qui sont un petit peu trop curieux, c'est sûr. C'est pas une astuce, mais quelque chose qui existe dans Xcode 15, qui a l'air très sympathique. Donc, si vous avez une documentation doxée dans votre application, apparemment, on peut voir à quoi ça va ressembler directement dans Xcode. C'est ça, on n'a pas besoin d'exécuter, doxer...
Exactement, tu n'as pas besoin de compiler ta documentation. C'est exactement
donc,
ça.
Donc, comment ça marche? J'ai pas trop vu ce qu'il dit comment faire.
C'est un aperçu dans Xcode même. Vous savez, comme vous avez des aperçus en SwiftUI, par exemple, vous pouvez avoir un aperçu du côté droit de votre fichier. Eh bien, si vous ouvrez un fichier de documentation qui est en Markdown, donc le format doxé, vous pouvez ouvrir un aperçu sur la droite qui va vous montrer de quoi ça a l'air une fois que ça va être compilé. C'est vraiment très bien fait. C'est pour pouvoir avoir une visualisation rapide de ce que vous êtes en train d'écrire. Et ça marche pour les fichiers doxés, mais ça marche aussi pour... comme les fichiers doxés sont en Markdown, ça marche pour les fichiers Markdown aussi. Donc, c'est quand même une bonne façon d'avoir un bel aperçu. Parce que des fois, oui, on lit le texte et on comprend, mais quand il y a des images et des liens qui sont insérés dans le texte, c'est peut-être plus facile de juste lire le texte vraiment bien rendu, comme s'il avait été compilé, plutôt que de lire le texte brut.
C'est excellent. Donc, ouais, c'est dans Xcode. Hein, quand vous avez le document sur la gauche, sur la droite, vous pouvez choisir, je pense qu'il y a un petit menu là, et choisir qu'est-ce que vous voulez voir. Il y aura une option qui s'appelle Documentation Preview.
Qui est visible quand vous ouvrez un fichier Markdown sur la gauche.
Ouais, excellent. Donc, ça se fait tout seul. C'est un peu marrant qu'on découvre ça maintenant.
Ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de choses dans Xcode 15.
Ouais, ouais.
Il y a des défauts, là, mais on n'en parle pas trop, là, mais il y a quelques avantages.
Maintenant, passons à autre chose. L'informatique quantique.
Oui.
On se demande qu'est-ce que c'est, là, mais Apple...
Tu voulais pas un petit sujet léger, là?
Un petit sujet léger et simple. Mais Apple le voit un peu dans le futur. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui nous menace. Il y a aussi l'informatique quantique, là, qui prévoit d'avoir des capacités de calcul impressionnantes et qui pourrait être capable de... craquer des encryptions qu'on pensait incraquables avec la technologie actuelle. Ça prendrait des dizaines d'années ou des centaines d'années pour, je sais pas moi, essayer de toutes les combinaisons possibles de quelque chose. Mais avec l'informatique quantique, qui sait, peut-être que ça prendra quelques heures ou encore moins avec une capacité de calcul ultra rapide. Donc, Apple commence à réfléchir comment faire de l'encryption de bout à bout dans iMessage ou dans les applications de messagerie. Donc, si on veut garder le contenu de ces messages vraiment privé, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas moyen de décrypter ce qui se passe entre les deux. Donc, Apple a sorti quoi ? PQ3, c'est quoi ? C'est une nouvelle encryption qui résiste à l'informatique quantique, c'est ça ?
C'est pas tant... c'est pas leur description, c'est... PQ3, c'est un niveau d'encryption. Alors, PQ pour post-quantique, parce que comme tu l'as dit, l'encryption actuelle, en fait, tout l'Internet tel qu'on le connaît, là, existe grâce à l'encryption qu'on dit asymétrique, c'est-à-dire les trucs de... On vous parle de clés publiques, de clés privées, des choses comme ça. C'est ce qui permet de faire... Ces genres de clés-là permettent de faire des connexions sécurisées. Et ça fait un peu tout marcher, là, les sites de transactions, les sites de banque, les sites de messages, etc. Mais tout ça est basé sur de la mathématique, sur des nombres premiers. Des nombres premiers qui sont pas factorisables. On peut pas, comme les deux clés sont des très grands nombres premiers, ils ont pas de facteur en commun. On n'a pas de prise informatique pour faire l'escalade du mur pour trouver la solution. Comme tu dis, il y a deux façons. La première, c'est d'utiliser un programme qui va essayer toutes les solutions. Mais ça peut prendre jusqu'à des milliards d'années pour tester toutes les solutions avec nos ordinateurs actuels. Ou on trouve des failles dans les programmes d'encryption. Peut-être que le générateur de nombres aléatoires n'est pas si aléatoire que ça, puis des choses comme ça. Et ça permet de réduire la surface de recherche, quelquefois même de façon dramatique. Là. On parle de plus de millions d'années, mais de comme tu dis, de quelques heures avec du matériel spécialisé. Mais c'est sûr que aujourd'hui, on continue d'avoir des systèmes d'encryption qui sont avec de plus en plus de bits à l'intérieur, donc des nombres premiers de plus en plus élevés pour éviter ce genre de problème-là. Mais on s'entend pour dire qu'à la vitesse à laquelle vont les ordinateurs, un message que vous avez encrypté aujourd'hui avec les techniques actuelles, on s'attend à ce que dans 10 ou 20 ans, ça soit possible de le décrypter avec ce qui s'en vient comme technologie. Ça a toujours été à peu près le cas, ça s'est vérifié par le passé. Ça prend toujours 10 ou 20 ans à ce que l'attaque soit possible par rapport à la défense actuelle. Est-ce que c'est une raison pour s'en faire? Pas vraiment, là. Vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter, mais l'informatique quantique est en train de changer un peu la donne dans le sens que c'est plus 10 à 20 ans, c'est peut-être plus proche que ça pour pouvoir découvrir tout ça. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est que les données que vous générez aujourd'hui, qu'on puisse les décrypter avec l'informatique quantique dans quelques années. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir dès aujourd'hui un système d'encryption post-quantique, donc qui ne peut pas être résolu par l'informatique quantique telle qu'on la connaît, et de commencer à utiliser cette encryption-là tout de suite, pas parce qu'il existe quelque chose qui peut la décrypter aujourd'hui, mais parce qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir décrypter vos messages plus tard. Donc, c'est juste une question de retarder encore un peu ce genre de possibilités. C'est ce qui fait fonctionner les gens qui travaillent en sécurité. Et on en entend parler des fois quand il y a des gros problèmes, là, les différents problèmes de librairie Java ou de Heartbleed ou de tous ces problèmes d'encryption qui ont fait en sorte que maintenant, on n'a plus du TLS V1, mais on a du TLS 2, 1.2 ou 1.3. Tous ces trucs-là qui sont toujours mis à jour à cause de ça, c'est parce qu'il y a toujours de la recherche, toujours des choses comme ça. Ben là, on essaie d'aller encore plus loin. Et Apple a écrit un très bel article que je vous encourage à lire, même si c'est en anglais, c'est quand même assez bien expliqué quels sont les différents niveaux d'encryption actuels, qu'est-ce que c'est que l'encryption post-quantique de niveau 3 et pourquoi c'est une bonne chose de l'introduire maintenant. Je pense que ça va même faire partie de iOS 17.4 qui vient de sortir. Il y a déjà des morceaux là-dedans. Alors, on parle de quelque chose qui va se retrouver dans vos téléphones d'aujourd'hui. Évidemment, si vous avez un téléphone qui utilise iOS 17.4 et que vous envoyez un message à quelqu'un qui utilise iOS 16, il n'y aura pas d'encryption post-quantique là-dedans. Mais si vous êtes en deux téléphones iOS 17.4, vous avez potentiellement utilisé de l'encryption de type PQ3. C'est ce que je trouvais quand même assez intéressant, ça valait la peine de le souligner. C'est sorti littéralement une heure après qu'on ait fait notre dernier enregistrement, alors j'ai pas eu le temps d'en parler, mais comme vous voyez, c'est quelque chose qui me tient à cœur un peu, ce genre de problème-là, de problèmes un peu plus... De haut niveau et de voir dans le futur qui ne sont pas des problèmes de juste gaspiller des ressources, mais plus pour se protéger et conserver notre droit à la vie privée, si on veut.
Ouais, non, mais c'est intéressant et ça rassure de voir que y a des compagnies qui travaillent là-dessus.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu cette image qui te montre la liste des applications et quel niveau d'encryption ils utilisent. Ouais. Et on voit que Skype n'utilise rien du tout.
Non, c'est ça.
Donc, tout. Mais, et Telegram, je pensais
qu'il y a de l'encryption. C'est-à-dire que c'est encrypté, c'est juste que les clés sont sur le serveur central. Quand les clés sont sur le serveur central, ça veut dire que le serveur central peut tout voir. C'est juste ça que ça veut dire. Quand les clés sont chez chaque... et ça, c'est la différence entre, disons, WeChat et e-message. Si vous utilisez WeChat... Facebook Messenger, les clés sont sur... c'est encrypté dans le sens que quelqu'un qui s'insère entre votre téléphone et le téléphone de votre ami ne pourra pas lire le message. Le message lui-même est encrypté en transit. Mais la clé qui sert à faire l'encryption est stockée chez Facebook, est stockée chez WeChat, est stockée chez Skype, etc. Donc, comme eux ont la clé, peuvent très bien voir qu'est-ce qui se passe et décrypter vos conversations. Par contre, avec un truc comme e-message ou Signal, la clé est sur vos appareils. Donc, le fournisseur de service n'a pas la clé, donc n'a aucun moyen de décoder le message sans faire des opérations de force brute dont on parlait tantôt. Là. Donc, c'est ça la différence. Les deux sont encryptés, mais c'est où sont les clés?
Ouais. Donc, comme tu disais, on vous conseille ou vous invite à lire cet article qu'on va mettre dans les notes de l'émission. C'est sur le site security.apple.com qui décrit tout ça, qui donne des exemples et qui explique comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas super simple, mais ça va pas non plus dans les mathématiques et dans le code. Là, ça explique un peu quel est le concept derrière ce post-quantique, voilà, le système post-quantique, qui n'est pas juste que de l'encryption, c'est aussi comment gérer les clés d'encryption et comment les recréer. Donc Apple a rajouté ça, c'est que Signal, par exemple, qui avait commencé un petit peu sur chemin avec le protocole PQXDH, si je comprends bien, crée une clé quand on, j'imagine, comme on démarre une nouvelle conversation dans leur application. Mais Apple rajoute de recréer la clé pour chaque message échangé. Donc même si un ordinateur quantique arrive à décrypter la clé et à décoder quoi que ce soit, dès le message suivant, ça sera trop tard, la clé a changé. Donc c'est intéressant de voir qu'ils travaillent dans le futur, donc ils rajouteront aussi le PQC ou l'authentication PQC. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça doit être écrit là-dedans, mais voilà. Donc, ouais, bonne trouvaille, très intéressant. À jeter un coup d'œil. Même si on n'est pas spécialiste là-dedans, je pense que c'est bon d'être éduqué dans ce qui se passe sur ce front-là. Parce que la vie privée, ouais, elle est un peu mise en danger ces temps-ci. Beaucoup de forces du mal qui essayent de mettre le nez dans votre vie privée. Donc, c'est bon de voir qu'il y a des applications qui vont pouvoir résister à ça un peu plus longtemps. On va passer maintenant à un framework, encore un, on va dire, qui offre des API Swift pour SQLite ou SQLite. Il y en a quelques-uns maintenant. Je ne sais pas, on faudra qu'on fasse la liste un jour. Je pense que... Voilà, je ne sais pas pourquoi... Beaucoup de développeurs se disent « Ah ben moi je vais faire ma version et qui sera mieux que les autres, je sais pas. » Mais bon, celle-là a l'air intéressante aussi. Elle s'appelle Lighter.Swift, Lighter.Swift, développée par un ancien employé d'Apple apparemment. Donc peut-être quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. Donc ça peut être intéressant. Il a l'air de dire que c'est très très rapide, qu'il n'y a aucune dépendance. Donc ça prend pas... une autre librairie ou quoi que ce soit pour fonctionner. Et puis, c'est TypeSafe. Donc, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est, ça respecte les types...
Oui, mais c'est ça. C'est, t'essaies de faire... quand tu fais un framework comme ça, si tu peux faire en sorte que ce framework-là va te permettre de faire du code qui est correct à la compilation et non pas que tu n'as pas besoin d'attendre de le faire rouler sur un appareil pour voir qu'il y a un problème dessus, c'est un avantage. Puis c'est quelque chose qui est très, très courant dans dans le langage Swift d'avoir cette approche-là. Donc, c'est très Swifty pour utiliser un néologisme.
Ouais. Bah surtout aussi, ça dit que ça respecte les types pour SQL. Donc, j'imagine que ça vérifie que vos requêtes soient correctes, les types soient respectés, toutes ces choses-là aussi, peut-être à la compilation, avant de... qu'il y ait, je sais pas moi, une requête SQL au milieu de votre application qui est très rarement utilisée, et le jour où elle est utilisée, ça crache votre application parce que, je sais pas, il manque quelque chose, le type est pas bon ou quoi. Donc bon, si c'est ce que Lighter.Swift promet, ça peut être intéressant, ça. Donc bon, à voir. C'est sûr que tout est autour, bah tout, je vais pas dire ça, mais Swift Data est un peu la star actuelle, là, mais Swift Data fait pas encore tout, je pense. Il y a encore certaines limitations. Ce n'est pas, si je dis pas de bêtises, mais ce n'est pas la transition à 100% de Core Data. Donc Core Data déjà non, avait peut-être des choses qui manquaient, mais Swift Data n'a pas tout ce que Core Data avait non plus.
De la même façon que Swift UI n'a pas tout ce que UIKit a. Là.
C'est exactement. Donc l'intérêt d'utiliser SQLite, c'est d'avoir plus, on va dire, d'accès natif à une base de données SQL et puis faire des choses un peu plus complexes peut-être. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir accès à ce genre de framework, et surtout, comme tu le dis, si c'est très Swift, donc
API moderne avec des async await, avec des try, etc.
C'est ça.
Alors que ceux qui utilisent SQLite existe depuis très longtemps, on s'entend. Si vous avez déjà regardé le programme, là, c'est un programme en C qui fait un seul fichier qui est très gros. Et puis, ça ne change pas beaucoup. C'est très robuste. C'est une très bonne base sur laquelle bâtir un système de stockage de données, mais disons que l'interface est un peu rébarbative. Là. D'avoir une belle interface comme ça, c'est facile à utiliser et qui s'insère bien dans votre programme. C'est un truc de plus. On en a parlé de plusieurs. Lui, je voulais en parler d'un autre. Si vous avez le moindre intérêt pour les bases de données SQLite, jetez un coup d'œil sur Lighter.
Point Swift. Donc, si vous allez sur GitHub, vous allez sur le compte. Je dis pas de bêtises.
Lighter Swift.
Oui, il s'appelle Lighter Swift, oui. Le compte. C'est ça. Ouais. Et puis voilà, vous allez dans le projet Lighter.
Ouais.
Et le développeur, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est un certain
Hess.
S, c'est ça, c'est un Allemand, je pense. Ouais. Donc voilà, désolé pour la prononciation, mais voilà, il dit qu'il travaillait chez Apple avant. Donc je ne sais pas s'il dit dans quoi, mais bon, c'est quelqu'un qui a travaillé sur pas mal de choses dans le passé. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir à quoi ça ressemble. Donc si vous êtes à la recherche d'un API Swift pour SQLite, eh ben, voilà, jetez un coup d'œil à lighter.swift, ça peut peut-être vous intéresser. Maintenant, on va passer à une petite série d'utilitaires, de petites applications open source, je crois, majoritairement, que vous pouvez utiliser et puis ajouter à votre boîte à outils de développeur. Le premier s'appelle Pasteboard Viewer. Donc, comme son nom l'indique, je pense que ça permet d'inspecter la planche à coller.
Le presse-papier.
Le presse-papier, ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'est le presse-papier du système. Donc,
En fait, sur macOS 10, c'est les presse-papiers, parce qu'il y en a plus qu'un.
Ouais, c'est ça. Donc, les presse-papiers, alors, à quoi ça pourrait servir, Philippe?
Ben, quand on envoie des informations d'un programme à un autre, on utilise tout le temps le copier-coller, les presse-papiers, et aussi le glisser-déposer, c'est quelque chose de tout à fait commun. Le framework à l'interne s'appelle le Pasteboard, et il y a plusieurs applications qui existent qui vous permettent d'inspecter ce Pasteboard. Il y a même des applications qui vous permettent non seulement l'inspecter, mais de garder des trucs en mémoire. Par exemple, un historique là, des gestionnaires de presse-papier, il y en existe plusieurs. Là. Vous faites juste une petite recherche pour Clipboard Manager sur Google, vous en trouvez des tonnes. Mais celui-là, je trouvais ça bien parce qu'il est en code source libre. Et puis, je ne pense pas qu'il vous permette de récupérer... Il peut vous permettre de récupérer des trucs, là, mais je ne pense pas qu'il fait de l'historique. Ça peut être un bon programme, si vous voulez... inspecter comment apprendre comment le pasteboard fonctionne et inspecter vos propres pasteboards pour voir comment sont stockées les différentes choses. Et puis c'est créé par Sindri Sorus, dont on a déjà parlé, parce qu'il nous avait offert un petit utilitaire qui permet de si je me rappelle bien de où est-ce qu'il est je dis pas, je le retrouve pas, il faut que je le dise. Sindri, où es-tu? Voilà, pour coller, il nous avait fait Pure Paste, on en a parlé il y a un an. qui pour coller du texte sans avoir toutes les décorations autour. Là. Donc, c'est quelqu'un qui se connaît bien dans le presse-papier. Et puis, il a écrit cette utilité-là pour juste visualiser le contenu du presse-papier et vous aider à le visualiser. Puis, tout est en code source libre. Vous pouvez le compiler par vous-même et voir comment ça fonctionne.
Voilà, donc ça s'appelle Pasteboard Trait d'Union Viewer. Et comme tu le disais, le compte sur GitHub, Sindre Sorus, donc SindreSorhus.
Oui.
Petite trouvaille. C'est sûr que si on a des soucis en développant une application, que vous faites du copier-coller puis que c'est pas la bonne chose qui arrive de l'autre côté ou qu'il y a des soucis de format ou quoi que ce soit, c'est toujours bon de voir à quoi ressemble. Ce que vous avez mis, je crois que ça marche pour iOS et même VisionOS. Waouh! Intéressant. Faire du copier-coller, j'imagine.
Oui, le Pasteboard existe dans tous les. Ça fait partie de tous les systèmes.
C'est très vieux.
Ouais.
Mm-hmm. C'est très très vieux ça. Je pense que ça vient du Mac classique. Une invention ancienne. Donc voilà, ça peut être utile en tant que développeur si vous développez des applications.
Oui.
Une autre je pense qu'on va passer à celui-là et on va changer l'ordre. On va d'abord parler d'une autre application qui s'appelle Default Handler de notre ami Luc Vandal.
Il nous écoute peut-être.
On le salue s'il nous écoute. Ça s'appelle Default Handler. C'est open source, est-ce que c'est open source?
Je crois pas qu'il ait publié le code source. On peut télécharger l'application directement de son site web.
Ouais.
Mais c'est un développeur. Il fait le programme Screens vous utilisez peut-être. Moi, j'utilise. C'est un développeur connu de longue date, donc pas de crainte à télécharger des trucs de son site. Il sait ce qu'il fait.
Voilà. Donc Default Handler, donc si c'est probablement des mots que vous reconnaissez hein, quand vous êtes dans macOS ou iOS, quand vous voyez passer un lien avec un préfixe, donc là, bien sûr, Luc Vandal, comme il fait une application Screen qui gère des clients VNC pour se connecter à distance sur d'autres systèmes, c'est sûr qu'il y a le fameux VNC 2.://
oui.
Avec quelque chose derrière et ça vous permet donc juste en cliquant ou en disant en exécutant ce lien, ça vous permet de vous connecter sur un système à distance. Donc je pense que Luc avait un intérêt un peu à regarder comment fonctionnent ces fameux Default Handler et comment les modifier. Donc, si je comprends bien, l'application qu'il a écrite, ça permet de modifier quelle application va recevoir ces fameux URL.
C'est ça. Les URL sur iOS, macOS, etc., on utilise ça pour pouvoir, comme tu dis, ouvrir une application avec un certain. Une certaine métadonnée finalement. Là. Si tu dis VNC 2.:// avec une adresse, par exemple, je sais pas moi, VNC.cacaocas.com, mais tu t'attends à ce qu'il y ait un client VNC qui va ouvrir l'adresse VNC.cacaocas.com. T'sais. Mais ça, ces différents trucs d'URL, il y en a beaucoup. On peut les définir nous-mêmes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont préexistants. Là, par exemple, quand quelqu'un vous envoie un lien Apple News sur mastodon.social, eh bien, si l'URL commence par applenews://, ben ça va s'ouvrir dans Apple News. Mais peut-être que vous ne voulez pas l'ouvrir dans Apple News, peut-être que vous voulez l'ouvrir directement dans Safari ou dans votre navigateur préféré. À ce moment-là, vous pouvez intercepter l'URL qui commence par Apple News et l'envoyer ailleurs. C'est exactement ce que l'application te permet de faire. Moi, ce que j'ai trouvé rigolo là-dedans, c'est que c'est une fonctionnalité qui a déjà existé dans le macOS pré-macOS 10 et qui a aussi existé dans macOS 10 sous la forme de différentes... sous-modules dans les préférences système. Et puis, ça a disparu avec le temps parce que, je sais pas, ils veulent cacher des affaires. Mais la fonctionnalité en dessous, là, le framework qui permettait de faire tout ça a toujours existé. C'était juste qu'il n'était pas vraiment exposé avec une interface utilisateur, mais il était exposé avec un API. Alors, Luc a simplement écrit, simplement, je dis ça, c'est facile, là, mais a écrit une application qui parle à ce système-là, ce framework-là, et puis le présente de façon simple et jolie et efficace. Et voilà, on enregistre pour que le système fonctionne et utilise les bons... l'application de votre choix pour les différentes URL. Si vous voulez avoir une idée de combien il y a de ces types-là, Luc a mis toute une liste déjà pré-remplie dans l'application. Et évidemment, on peut définir les nôtres, là, mais il y en a vraiment beaucoup.
Ouais. Donc, bon, je pense qu'il a écrit l'application parce qu'il y avait un problème avec les applications dans le bac à sable qui ouais. permet pas de changer donc, le default handler d'un URL, j'imagine. Donc,
oui, quand une application, par exemple, vient du Mac App Store, elle ne peut pas s'enregistrer pour pouvoir elle-même pour pouvoir choisir cette URL-là. Alors qu'une application qui n'est pas Mac App Store peut le faire, elle peut elle-même s'enregistrer, c'est moi je suis capable de gérer ce genre d'URL là, mais dans le bac à sable c'est pas possible, donc voilà. Avec un truc comme ça, ben vous faites le tour, vous contournez le bac à sable pour que votre application locale fonctionne. Par exemple, supposons que vous avez téléchargé une application qui écrit des messages mail et vous voulez que quand vous avez une URL qui commence par mail2:// ça ouvre votre application que vous avez achetée sur l'App Store, ben avec cette application-là, vous pouvez faire cette modification-là, votre système.
Voilà. Donc, si vous allez sur le site r.edovia.com/dh, vous pouvez directement le télécharger. Donc, c'est même pas une page. C'est, voilà, vous allez télécharger l'application. Et voilà, vous pouvez changer l'application qui va gérer votre URL. Particulier. Donc ça peut être intéressant vous aussi si vous avez une application qui interagit avec un URL qui existe déjà ou qui est déjà géré par une autre application. Donc voilà. Un petit outil encore une fois qui peut être utile. On va parler maintenant d'un autre outil. Alors là, c'est pas vraiment un outil, c'est plus quelque chose pour macOS.
C'est tout des trucs pour macOS.
Je veux dire, c'est pas voilà, forcément pour le développement ou quoi que ce soit, c'est plus pour la qualité de vie, on va dire, dans macOS. Si vous êtes comme moi, et j'imagine peut-être comme toi, Philippe, au bout d'un moment, dans la barre des icônes en haut à droite de l'écran, ça commence à être un peu surpeuplé. Donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on va dire 19, en comptant la date en haut à droite. 18 icônes, voilà, et plus la date. Donc ça commence à faire du monde. Donc comment on fait un peu le ménage là-dedans et puis que... je pense qu'avec cette application, on peut la réorganiser. Oui, je pense qu'on pourrait les réorganiser, mais plus, surtout, on peut les cacher. Tu peux
aussi les réorganiser en faisant un command-click puis déplaçant les trucs.
Ouais, ça existait déjà, oui. Ouais. Mais là, on peut un peu choisir lesquels on veut cacher, parce qu'on ne veut pas non plus cacher la totalité. Il y a quand même certains de ces icônes qui nous intéressent, là, qu'on veut voir à tout temps, mais il y en a un paquet qu'on ne veut peut-être pas trop voir. Donc, tu nous as dégoté une application qui s'appelle Hidden, H-I-D-D-E-N, sur GitHub, qui veut dire caché. Alors, qu'est-ce que ça cache? Comment ça marche?
Ben, l'idée, c'est qu'on peut déjà réorganiser nos icônes en faisant un command-click pour les déplacer de la gauche à la droite dans la barre des menus. Mais comme tu dis, il y a certains de ces applications-là qui sont peut-être moins importants. Des fois, il y a des applications que c'est la seule façon qu'elles existent, c'est dans la barre des menus. C'est une certaine catégorie d'applications qui n'ont qu'une présence dans votre barre des menus. Donc, vous devez absolument l'avoir dans la barre des menus. Mais si vous êtes branché sur un moniteur 27 pouces, il n'y a pas de problème. Vous avez la barre des menus très, très grande. Mais des fois, vous débranchez votre portable et puis vous vous retrouvez sur un écran de 14 pouces avec pas de place. Et puis là, subitement, ces icônes-là, ils prennent trop de place, puis ils vous enlèvent des menus de Safari. Là. Votre menu de développement de Safari, vous n'y avez plus accès parce que vous avez trop d'icônes dans votre barre des menus. Mais avec Hidden, vous déplacez les trucs à la droite, à la gauche du petit de l'icône de l'application. Et ça vous cette icône de l'application est une petite flèche. On clique dessus et ça masque ou ça présente les différentes icônes. Alors, c'est très pratique pour quand on passe d'un petit écran à un grand écran. Et puis, moi, je viens de l'installer. Et puis, à date, ça fait ce qui est écrit sur la boîte. Et je l'ai téléchargé directement du Mac App Store. Tout était en français. J'ai trouvé ça très bien. Une petite application qui fait bien son travail et qui, en plus, est gratuite.
Oui, puis j'aime bien le côté interactif. Hein. Donc, il y a deux icônes, on va dire, qui travaillent ensemble pour cette application. Je ne sais pas comment le développeur a fait ça. Est-ce que c'est deux applications qui travaillent ensemble ou c'est la même application qui peut mettre deux icônes séparées? Ça serait intéressant de regarder le code source qui est disponible. Donc, il y en a un, c'est comme une petite barre verticale que vous pouvez déplacer donc, en faisant... comme tu disais, commande-clic, c'est ça? Je pense que voilà. Et ça vous permet de faire la distinction entre les icônes que vous voulez toujours voir et ceux que vous voulez pouvoir cacher. Et une fois que vous avez mis cette petite ligne là entre ces deux catégories d'icônes, vous avez une petite flèche, un petit signe supérieur ou inférieur là, en fonction de quel côté il se met. Et voilà, en cliquant dessus, il va cacher tous les icônes qui sont à gauche de la petite barre. Et quand vous recliquez sur la flèche, ça va remontrer tous les icônes qui sont à gauche de la petite barre. Donc, j'aime bien le concept. Ouais. C'est pas quelque chose, il faut rentrer dans un menu, choisir des choses, etc. C'est complètement interactif. Donc, l'idée est très bonne. Et voilà, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil dans le code, voir comment ça fonctionne. Ça doit être assez intéressant. Voilà, donc si vous allez sur GitHub, le compte est DwarvesF, donc DwarvesF, et le projet s'appelle donc Hidden, HIDDEN, et c'est écrit en Swift, je pense pas que ça soit du Swift UI. C'est du AppKit, hein. Donc pour SwiftUI, je pense qu'il aurait eu du mal hein, à faire ce genre de choses. Ouais, il faut peut-être aller un peu plus bas niveau là, pour gérer ces deux icônes dont je parlais. Je sais que SwiftUI, je pense qu'on peut faire une application qui vit dans la barre des menus, mais pour pouvoir manipuler la barre de menu, à mon avis,
c'est ça, il y a plus de limites.
Ouais, il y a plus de choses, donc voilà. Acheter un coup d'œil, un petit utilitaire sympa. Je vais peut-être l'installer moi pour cacher une partie de mes 19 icônes là-haut. Et puis t'as bien raison, quand tu passes dans un écran qui a la fameuse encoche, donc les MacBook Pro depuis un certain temps qui ont cette encoche là, ça peut être problématique quand on a trop d'icônes là-haut, que ça commence à aller derrière l'encoche ou à passer de l'autre côté là. Des fois ça va de l'autre côté, des fois c'est un peu caché derrière, donc bon, autant pouvoir cacher tout d'un coup, puis on n'en parle plus. Une astuce, on va passer maintenant à la liste de petites astuces. Quelque chose que je ne connaissais pas, c'est comment faire du airdrop avec un câble.
Ouais.
Donc voilà, il faudrait l'appeler différemment. Cable drop, je ne sais pas, un wire drop, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est Guy Rambaud. On a déjà parlé de Guy Rambaud dans le passé.
Reprises, oui.
Et c'est quelqu'un qui est très bon à dénicher des trucs un peu cachés dans le système, là où les gens ne connaissent pas trop. D'habitude, lui, il regarde dans les SDK bien en détail s'il y a des nouvelles chaînes de caractères ou des nouvelles ressources qui peuvent trahir un peu des futures annonces chez Apple. Mais là, il a trouvé quelque chose assez intéressant. Donc, on peut faire du airdrop avec un câble. Oui. Est-ce que tu as déjà essayé ça, Philippe?
Ben, juste pour tester si ça fonctionne, oui. Moi, j'ai un câble qui est, disons, comme beaucoup d'entre vous, Lightning à USB, à USB-C. Et puis, ce que j'ai pu faire, c'est faire du airdrop entre mon iPad qui est USB-C et mon iPhone qui est Lightning avec ce câble-là. Et même pas besoin de passer par le réseau. Ça passe directement vers le câble. Alors, d'une part, c'est rapide et d'autre part, ça marche tout le temps. C'est ça qui est bien. Parce que des fois, le airdrop, ça peut être un peu frustrant quand ça ne fonctionne pas. Là. Mais avoir le airdrop, avoir la possibilité de mettre un câble, c'est quand même pas pire. Surtout si vous avez, disons, une vidéo que vous voulez mettre, passer d'un appareil à l'autre sans passer par le Wi-Fi, parce que soit que vous n'avez pas de Wi-Fi, soit que... Donc, ce serait le réseau cellulaire, ou vous ne voulez pas tout envoyer directement dans iCloud puis le récupérer après. Vous voulez juste l'avoir maintenant, ben un gros fichier. C'est intéressant de dire, ah ben oui, je vais sortir un câble puis je vais le faire. Je ne sais pas s'il y a des câbles qui sont Lightning aux deux bouts, là, ça doit exister, mais j'en ai pas. Il y a définitivement des câbles qui sont USB-C aux deux bouts. Alors, si vous avez un iPhone 15 puis un iPad ou deux iPhone 15, ça va. Là. C'est quelque chose qui vaut la peine de se garder dans sa petite poche de côté là, pour se dire, ah oui, dans sa poche d'en arrière pour dire, ou quelqu'un. Mon AirDrop fonctionne pas, mais attends, j'ai un câble ou fonctionne pas bien ou c'est frustrant, j'ai un câble, je vais l'essayer et puis hop, ça va régler votre problème en quelques instants.
Ouais, ou c'est trop long, hein. C'est ouais. Sûr que maintenant on a des iPhones qui peuvent prendre des vidéos en 4K, des vidéos en stéréoscopie là,
ouais, pour, en plus, ouais.
Pour le Vision Pro, donc j'imagine que la taille de ces vidéos doit être assez impressionnante. Et voilà, si on en a un paquet ou des longues vidéos à transférer sur son Mac, par exemple, pour faire de l'édition, et ben un petit câble USB-C, USB-C, si vous avez un iPhone 15, ben ça ira bien plus vite, je pense. Ouais, moins frustrant s'il y avait des soucis avec AirDrop. Et puis là, ça va marcher à tous les coups. Donc c'est bon à connaître. Donc, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il faut juste brancher les deux Exactement. Appareils et puis ils vont se détecter tout seuls, c'est ça?
Exactement.
OK. Donc, c'est ce qu'on aime. C'est des trucs simples. Pas besoin d'aller trifouiller dans les paramètres.
Pas de configuration. Oh, et puis, surtout, AirDrop est rendu de moins en moins utile parce qu'ils mettent que si vous voulez activer AirDrop sur votre téléphone, vous devez aller dans les réglages. Puis, si la personne n'est pas dans vos contacts, ce qui est souvent le cas quand on veut utiliser AirDrop, il faut que vous ayez dans vos réglages, il faut que vous dise « Ah, je veux qu'il soit disponible pour tout le monde pendant 10 minutes », puis des choses comme ça, c'est vraiment gossant, alors que si vous avez un câble, c'est comme clic, clic, c'est fait.
Voilà, excellent. Bon, une autre astuce maintenant, dans l'application, je sais pas comment on l'appelle en français,
Aperçu,
voilà, décidément, il faudrait que
tu lises les notes.
Ben, il faudrait que je mette mon système que j'utilise la journée pour le travail en français. Parce que j'ai mon iMac dans ma cuisine en français. Donc, quand je l'utilise là-haut, ça va. Mais quand je reviens ici, là, sur mon MacBook Pro, tout est en anglais. Parce que, voilà, je travaille pas mal en anglais. Donc, il faut que je sois un petit peu dans le même genre de système que mes
C'est pour
collègues.
Ça que les notes de l'émission, je les mets en français pour que tu puisses les lire.
Ouais, ça, voilà. Je pense que ça aide pas. C'est pour ça que je suis souvent un peu mêlé, un peu perdu. Et j'avoue que, voilà, d'un côté, je vais utiliser une application. Puis, voilà, je vais mettre domicile. Et puis, l'autre, c'est home.
Ouais, c'est ça.
Alors, macOS, c'est pas mal intelligent. Hein. Si je fais une recherche Spotlight... de Home sur la version française, il va me trouver domicile et vice versa, donc ouais. Ça c'est pas mal, mais voilà, il faudrait quelque chose d'équivalent quand j'enregistre une émission. Donc dans l'application Aperçu, saviez-vous que vous pouviez supprimer le fond d'une image pas automatiquement, mais en utilisant soit le menu soit un raccourci clavier Command Shift K. Donc, ouais, ça peut être pratique, ça. Est-ce qu'il y a un peu d'intelligence artificielle derrière? J'imagine qu'ils ont peut-être un petit modèle qui est capable de faire ça pour vous, bien, ou pas. Je sais, je suis pas sûr. Hein,
je peux pas dire si ça marche sur tout, là, mais ouais. Je l'ai essayé sur 2-3 images. Quand il y a un visage, ça marche bien, parce qu'il vous dit, ah, il y a une personne, et puis on enlève l'arrière-plan. Mais, vraiment, là... commande majuscule K et hop, l'arrière-plan disparaît. Et il vous demande avant si c'est un JPEG, il va vous demander de le convertir en format PNG. Parce que les JPEG ont pas de transparence, alors que les PNG en ont. C'est quand même assez rigolo. Puis ça le convertit ça convertit tout en place. Hein. Alors, si vous enregistrez le fichier, c'est parti. Votre JPEG est devenu un PNG.
OK. Bah tiens, je vais faire le test en direct. Donc, j'ai une image que j'utilise souvent pour mon profil. Donc, si je vais dans Edit, que je fais quoi? Mais t'as peut-être raison. Faut d'abord que je le transforme.
Non, il va le faire pour toi. Fais commande majuscule K, puis ça va le faire pour toi.
Ah voilà, c'est dans le menu outils, vous avez voilà, supprimer l'arrière-plan, convertir en PNG. Bon, ça marche pas mal, mais là j'ai un petit reflet dans mes cheveux, ça fait un peu bizarre, mais bon, ça a pas trop mal marché. Mais ce qui est bien, c'est quoi là, ça m'a créé un PNG, donc ça n'a pas détruit mon image d'origine.
Non, si tu l'enregistres, ton image d'origine a disparu. elle a été convertie en PNG.
Ah, donc je ne l'ai pas encore enregistrée. Donc là, je convertis. Ok, donc là, ça a enlevé un peu l'arrière-plan sur une autre photo, mais j'ai une main d'une autre personne un petit peu derrière moi, et puis là, ça ne l'a pas détecté, ça.
Ah, donc, c'est pas parfait. Voilà,
ça fait même un peu bizarre. Ok, donc voilà, c'est intéressant, ça. Oui, t'as raison. Le JPEG a disparu. Alors, il vous demande pas de le sauver ou pas de le sauver. Hein.
Non, ça il fait juste le faire.
En PNG, puis voilà, le JPEG a disparu. Bah, c'est dommage. Et c'est pas grave. C'est des fois, il faut faire des sacrifices pour la science.
Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a des backups. Moi, je vais récupérer mon image avec Time.
Ouais, moi aussi, donc je pourrais faire ça. Ok, bah c'est pas mal. Donc voilà, commande Shift-K dans Aperçu, et vous pouvez détruire vos photos comme je viens de le faire en direct. on va finir l'émission par un petit truc rigolo. Quand tu m'as montré ça, Philippe, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui utiliserait un truc pareil? Bah surtout pas moi, parce que j'ai pas une vue d'aigle, donc je pourrais pas vraiment le faire. Mais voilà, il y a quelqu'un qui s'est dit, pourquoi ne pas inventer une police de caractère minuscule de quoi, 3 pixels, ou je sais pas trop combien de pixels ça
fait. C'est 3 par 4.
3 par 4, hein.
Ouais.
Voilà, de faire une police de 3 par 4 pixels. Voilà, donc si, je sais pas moi, votre écran est un peu petit, vous voulez éditer plus de lignes de code, vous pouvez utiliser ça si vous avez une très bonne vue, une loupe, ou alors que vous avez le nez sur l'écran, ça peut marcher. Mais sinon, voilà, là j'ai du mal, je vois les... C'est parfaitement lisible. Donc l'intérêt de cette police de caractère qui s'appelle NanoFont, oui, NanoFont 3x4.
C'est ça.
C'est qu'elle est parfaitement lisible. Donc, si vous avez une bonne vue et que vous arrivez à bien voir...
Ou carrément, voilà. Vous utilisez la fonction zoom sur votre ordinateur, comme je fais tout le temps.
Donc, c'est lisible. Il n'y a pas de truc, c'est... Alors, est-ce que c'est un O? Est-ce que c'est un B? Est-ce que c'est un D? Machin. Non, non, c'est... Ça a été bien fait pour que les lettres soient bien distinctes. Bah, au moins, les lettres de l'alphabet. Hein, donc,
l'alphabet ASCII, en fait.
ASCII, là. Donc, ouais, voilà. Ça. Ne vous attendez pas à
c'est
avoir...
C'est pas une police Unicode, là.
Voilà, d'avoir tous les symboles de la planète et puis des petits...
Tous les emojis.
Petits emojis minuscules de 3 par 4. Non, faut pas rêver. Mais voilà, vous avez de l'ASCII. Alors, moi, je me dis, mais à quoi ça sert? Et puis, bah, Philippe, toi, tu te dis, ah bah non, il y a peut-être des utilisations. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une police pareille?
Ben, je vais donner les exemples que lui-même donne dans sa documentation. Oui, c'est rigolo de faire ça, mais c'est parce que, par exemple, si vous devez faire une représentation, supposons que vous avez du texte dans votre application et que vous voulez en faire une représentation en plus petit, par exemple, un aperçu. Vous faites une mise en page et puis là, vous me montrez de quoi ça a l'air, cette mise en page-là. Mais si vous utilisez NanoFont, vous pouvez faire une représentation avec du texte qui est vraiment, qui est, ma foi, lisible. Donc, au lieu d'avoir un truc flou, parce que quand on prend une police de caractère qui est à 12 points puis qu'on la avec de l'anti-alias intégré et qu'on la réduit à 3 points, c'est plus lisible. C'est une tache grise, généralement. Mais si vous remplacez ça par NanoFont, vous allez avoir quelque chose qui va être, ma foi, plutôt lisible, même pour quelqu'un qui dit ben, « je pense que je reconnais mon texte ». Puis là, c'est pratique parce qu'on a une bonne idée de la présentation du texte. On peut voir un peu comment les différents paragraphes s'alignent. Et on peut reconnaître ce qu'on est en train de faire. Ou par exemple, vous êtes en train de faire un jeu et dans le jeu, il y a des pages de texte qui sont écrites sur un livre qui est sur une table, mais vous êtes dans votre Vision Pro et puis vous regardez la table de loin, eh bien, si la page du livre est écrite avec quelque chose comme NanoFont, ça va être du texte qui est quand même lisible. C'est sûr qu'on peut s'en rapprocher puis se mettre dans notre face, puis là, il va être à une grosseur normale pour pouvoir le lire, mais c'est à ce genre d'intérêt-là. C'est si vous voulez que la représentation de votre texte soit, disons, sans être la même représentation, parce que c'est sûr que c'est une police de caractère, puis ça changerait pour une autre police de caractère quand on va agrandir. Mais si le contenu du texte est plus important que le réalisme, ça peut devenir intéressant.
Ouais, donc des bons cas d'espèces, là, cas d'utilisation. T'as raison, des fois, quand dans les éditeurs, par exemple, on peut avoir le code sur le côté gauche, on va dire, et puis à droite, avoir une sorte de navigateur. Oh,
la minimap ou quelque chose.
Minimap de votre code source, et peut-être que ça serait une bonne utilisation de cette police de caractère. Donc, au lieu de voir juste des petites lignes qui vous donnent voilà, une idée que c'est une ligne de code plus ou moins longue, etc., mais vous pourriez voir en tout petit votre code source et pouvoir naviguer dedans. Ça peut être une idée, donc voilà, si vous développez un éditeur de texte, pourquoi pas. Alors, c'est pas tout neuf, là. Je regardais ce compte GitHub, là. Il a 9 ans, hein, le ouais. Projet. Donc, voilà. Une bonne trouvaille. Des fois, on découvre des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Mais ça peut être utile. Donc, je sais pas en quel format, comment ça marche, là, parce que je vois du code C++ qui demande peut-être Visual Studio, puis je vois un point .exe là, donc voilà, je sais pas si... pas évident, donc voilà. Est-ce que ça peut s'installer sur un Mac, tout ça? Je suis pas certain. Il y a des BMP, PNG... Donc voilà, regardez, peut-être que ça vous donnera envie de l'adapter en Swift, je sais pas. Donc, et je pense que c'est fait par code, tout ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc ça doit prendre une police standard ASCII de Windows ou je sais pas quoi, et puis ça va...
De ce que j'ai compris, c'est chaque caractère a été vraiment défini...
Ouais, codé peut-être.
Encodé spécifiquement dans une matrice 3x3. Là. Enfin...
Ah oui, donc non, il y a une matrice, ouais, je vois ça. Donc avec tous les caractères... Ouais. Donc bon, on peut en faire des choses. Cette matrice, elle est probablement très réutilisable. Hein. Donc il faut juste interpréter les chiffres hexadécimaux là qu'il a utilisé. Mais il y a même en binaire et tout. Donc on peut faire des choses avec. Si c'est quelque chose que vous pouvez récupérer, je pense qu'il y a de l'information intéressante dans ce projet et vous pouvez l'adapter puis l'utiliser dans vos propres applications. Donc ouais, ça peut être intéressant, par exemple, si vous faites des jeux de, je sais pas moi, il faut s'échapper d'une pièce et puis trouver des indices, d'écrire des choses en tout petit dans les coins, qui soient lisibles, ça peut être intéressant. Voilà, je vous donne des idées.
Hein. Mais je pense que le plus intéressant là-dedans, comme tu dis, c'est d'aller chercher la matrice de 3x3 pour de caractères en 3x3 pour pouvoir la mettre dans un autre langage, parce que là... Vous avez le code source en C++, là, mais voilà. La matrice, c'est en C. Là, c'est...
Voilà, vous pouvez faire un pull request, là, 9 ans après. Le développeur sera peut-être un peu surpris, il va se dire, ouais, comment ça se fait que les gens sont intéressés par mon nanofonte 3x4 que, voilà.
Ouais.
Puis parce que personne ne connaissait trop, là, ben, voilà. On remet ça au goût du jour, donc n'hésitez pas. Voilà, ben on arrive au bout de notre émission aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. On a tous les épisodes sur le site cacaocast.com. Philippe, si on va avoir de tes nouvelles, où doit-on aller?
Moi, je suis sur mastodon.social, Philippe C.
Et pour cacaocast, vous pouvez aller à cacaocast@mastodon.world. Et voilà, vous ne verrez pas énormément de choses, mais vous verrez quand un nouvel épisode est publié. Bah voilà, donc je pense qu'on va essayer de se retrouver dans 2-3 semaines pour parler peut-être de nouveautés côté Apple, s'ils ont fait des annonces d'iPad OLED. Je pense qu'on en parle depuis un certain temps, là, que ça sortira un jour. Peut-être un iPad avec un écran qui se plie en deux. Il y a aussi des rumeurs là-dessus. Moi, j'y crois pas trop, mais bon. Peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de le faire, faire fonctionner tout ça. Qui sait ? Je pense qu'il y a des choses à faire. L'iPad est un petit peu en... pas abandonné, mais on sent que c'est pas la plateforme la plus active chez Apple. Là, ils sortent des trucs de temps en temps, puis c'est un petit peu oublié pendant un ou deux ans. Et puis ça, ils ressortent des trucs, et puis c'est encore oublié à nouveau. Donc voilà, ça serait bien que ça soit mis un petit peu plus au goût du jour, qu'on puisse avoir plus d'applications encore sur cet ordinateur qui est censé remplacer des Mac un jour, je sais pas. Donc à voir. On va regarder ça de près. Et puis bien sûr, est-ce que Apple annoncera le Apple Vision Pro en dehors des États-Unis ? Ça aussi, c'est un truc qui nous intéresse. Ok, bon ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe.
Moi aussi, Philippe.
On se reparle une prochaine fois.
Salut. Bye.